Introduction. La décolonisation en Afrique noire a débuté en Gold Coast pour s'étendre aux autres régions de l'Afrique occidentale. L'implantation d'une administration indirecte a rendu précoce l'éveil du sentiment national, contrairement au système administratif direct de la France qui a cherché à étouffer les mouvements nationalistes. L'entêtement du Portugal pousse les mouvements nationalistes à faire recours à la voie des armes pour arracher leur indépendance. Grand 1, la décolonisation en Gold Coast. La Gold Coast fut un territoire sous domination coloniale britannique. Les Anglais se sont intéressés à ce territoire en raison de ses importantes ressources minières. Or, bauxite, diamants, manganèse, etc. Ils y ont introduit l'agriculture de plantation, notamment le cacao. Son évolution politique était amorcée avant la Première Guerre mondiale. Dès 1925, la Gold Coast était dotée d'une constitution faisant participer les chefs traditionnels au Conseil législatif. Cette assemblée, formée de l'ancienne aristocratie noble, est vivement contestée par les intellectuels et la bourgeoisie commerçante, qui réclament à être associés à la gestion des affaires du pays. Après la Seconde Guerre mondiale, la constitution de 1946 du gouverneur Sir Alan Burns introduit des réformes accordant la majorité aux Africains dans le Conseil législatif, qui reste minoritaire dans le Conseil exécutif. En 1947 est fondé le UGCC, United Gold Coast Convention, avec comme leaders J.B. Dankwa et Kwame Nkrumah, 1909-1972. Ce contexte historique est marqué par une crise économique et des tensions sociales, baisse des cours du cacao, maladie des cacaoyers, soit l'enshoot, ruine des bourgeois planteurs, mécontentement des anciens combattants qui réclament l'indépendance qui venait de s'imposer en Inde. En 1948, une manifestation pacifique des anciens combattants dégénère en émeute et gagne le reste du pays. 29 morts et 257 blessés. Les Anglais réagissent par l'arrestation des leaders de l'UGCC. En 1949, le mouvement nationaliste se fissure avec la création d'un nouveau parti politique par Kwame Nkrumah, le Convention People's Party, CPP, qui étend rapidement son influence. À la suite des émeutes, le gouverneur avait créé une commission de réforme constitutionnelle présidée par le juge Kousset. En 1950, une nouvelle constitution est promulguée. Elle remplace le Conseil législatif par une Assemblée nationale, le Conseil exécutif par un cabinet ministériel de 11 membres, dont 8 Africains. Frustré par cette constitution qui n'envisage pas un « self-government », le CPP organise des manifestations sanctionnées par l'arrestation de Kwame Nkrumah. Les élections de février 1951 sont gagnées par le CPP, 34 sièges sur 38. Nkrumah, libéré, devient Premier ministre. Ainsi, pour la première fois dans l'histoire coloniale, un Noir est appelé à la direction de son pays. Malgré les agissements de l'opposition conservatrice, chef traditionnel, bourgeoisie, qui voulait la partition du pays en ravivant les rivalités ethniques et religieuses, Nkrumah a pu manœuvrer avec habileté pour maintenir un État unitaire. Les élections de 1956 donnent la majorité des sièges au CPP, 72 sur 104. Le 6 mars 1957, l'indépendance est proclamée et la Gold Coast prend le nom de Ghana, conformément à la vision panafricaniste de Kwame Nkrumah. Grand 2, la décolonisation au Sénégal. L'émancipation de la colonie du Sénégal s'inscrit dans le contexte de la décolonisation de l'AOF, dont Dakar était la capitale. Les germes de cette évolution semée à Brazzaville en 1944 aboutissent à l'indépendance en 1960. La conférence de Brazzaville, sur l'initiative du CFLN, s'est tenue en janvier 1944, sans la participation des Africains. Elle réaffirme l'emprise de la France sur ses colonies en écartant toute idée d'autonomie. Dans le cadre de l'Union française, à partir de juin 1946, le Sénégal devient un territoire d'outre-mer. Les députés socialistes de la SFIO, Lamine Gueye et Léopold Sédar Senghor, 1906-2001, vont représenter le Sénégal au Parlement métropolitain. Le Sénégal, en outre, dispose d'une assemblée territoriale dirigée par Ibrahima Seydou Ndao. Avec la loi Lamine Gueye de 1946, supprimant le régime de l'indigénat, le poids électoral des communes est transféré vers les campagnes. En 1948, la scission intervient au sein de la SFIO. Senghor, qui a opté pour le socialisme africain indépendant, qui entend s'appuyer sur les masses rurales, crée le BDS. Les élections législatives de 1951 sont gagnées par le BDS. Senghor et Mamadou Dia rejoignent au Parlement le groupe des IOM, indépendants d'outre-mer, qui défendent la thèse fédéraliste. Le contexte international transforme la politique coloniale de la France. Défaite française de Dien Bien Phu en 1954, guerre d'Algérie déclenchée en 1954, conférence de Bandung de 1955, pression exercée par les superpuissances et elle, ONU, en faveur de l'indépendance. La France, le 23 juin 1956, revoit sa politique coloniale basée sur l'assimilation en votant une loi cadre dite « loi Gaston de Fer » du nom du ministre français d'Outre-mer. Cette loi, conçue avec l'aide de Oufoué Boigny, 1905-1993, introduit le suffrage universel dans chaque territoire qui a son assemblée et son exécutif local ou conseil de gouvernement présidé par le gouverneur. Le gouverneur général devient haut-commissaire. La loi cadre a pour conséquence la suppression des fédérations de l'AOF et de la LAEF et la division de la classe politique africaine entre fédéralistes, Senghor Modibo Keïta, et territorialistes, ou Fouet Boigny, Léon Mbéa. L'émiettement politique qui en résulte a été considéré par Senghor comme une voie à la balkanisation de l'Afrique occidentale. Aux élections de 1956, le BDS triomphe. Mamadou Dia est nommé vice-président du Conseil de gouvernement. Il décide de transférer la capitale de Saint-Louis à Dakar en 1957. Le BDS, dans une dynamique d'élargir les bases du parti, procède à une série de fusions avec le UDS de Thierno Ba et Abdoulaye Gueye pour devenir BPS et avec le PSAS de Lamine Gueye pour donner l'UPS. Par ailleurs, le retour de Gaulle, 1890-1970, au pouvoir en juin 1958 pour régler la question coloniale, précipite l'évolution politique de l'Afrique noire française. En effet, il élabore une nouvelle constitution qui établit une communauté entre la France et ses colonies qui deviennent des républiques autonomes. Un référendum sur ce projet est organisé le 28 septembre 1958. Le Sénégal vote massivement en faveur du « oui » qui l'emporte à 97%. Dès lors, la République du Sénégal est proclamée le 25 novembre 1956. C'est la période de l'autonomie interne. Pour limiter la menace de la balkanisation qui pèse sur l'AOF, Senghor tente de reconstituer une nouvelle fédération. Mais seul le Soudan français a répondu à son appel en janvier 1959, donnant naissance à la Fédération du Mali, qui reste dans la communauté, avec comme président Modibo Keïta, vice-président Mamadou Dia, président de l'Assemblée fédérale Léopold Sédar Senghor. La Fédération du Mali profite de la réunion du Conseil exécutif de la communauté en décembre 1959 pour exprimer sa volonté d'obtenir l'indépendance. La France cède à cette demande et les accords sont signés le 4 avril 1960. Les divergences politiques entre les leaders finissent par entraîner l'implosion de la Fédération dans la nuit du 19 au 20 août 1960. Le Sénégal proclame son indépendance le 20 août 1960, avec comme président de la République Senghor et comme président du Conseil Mamadou Dia. Grand 3, la décolonisation de la Guinée-Bissau et de l'Angola, les possessions portugaises d'Afrique furent la Guinée-Bissau, l'Angola, l'archipel du Cap-Vert, São Tomé et Principe, Cabinda, Saint-Jean-Baptiste de Ouida. Première nation coloniale à prendre contact avec l'Afrique noire, le Portugal sera la dernière puissance à quitter ses colonies. Cette décolonisation tardive prendra le plus souvent l'aspect d'une guerre de libération nationale dans un cadre d'affrontement idéologique entre l'Est et l'Ouest, dépassant ainsi la seule lutte anticoloniale. 1. La situation coloniale et la politique du Portugal. L'occupation portugaise se limitait d'abord aux côtes pour les besoins de la traite négrière atlantique à destination du Brésil. Cependant, la seconde conférence coloniale de Berlin, 1884-1885, fit de l'occupation effective une condition indispensable du statut colonial. C'est pourquoi le Portugal allait encourager une forte immigration vers les colonies afin de les préserver des ambitions britanniques. 9 000 Portugais s'installent en Angola en 1897. En fait, le Portugal entendait mener une politique d'assimilation. Jusqu'en 1961, l'immense majorité des autochtones d'Angola, de Guinée, du Mozambique n'avaient pas tous les droits des citoyens de la métropole. La loi coloniale de 1933 avait accordé le statut de l'indigénat. Sont considérés comme des indigènes.